Patrimoine et Finances, une émission animée par Frédéric Primo, banquier du patrimoine et de l'entreprise, chef de marché profession libérale pour le groupe Société Générale.
Chers amis, chers auditeurs, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview dans le cadre de la chronique Patrimoine et Finances. Dans ce nouvel épisode, j'ai souhaité vous parler de la création de valeur dans l'immobilier pour un investisseur non professionnel. À ce titre, j'ai le plaisir de recevoir Olivier de Sauveboeuf, fondateur de Valperia, qui accompagne les particuliers dans leurs investissements immobiliers locatifs. Bonjour Olivier de Sauveboeuf.
Bonjour Frédéric.
Après avoir œuvré pendant de nombreuses années en tant que banquier de proximité, cela vous a conduit à créer Valperia, qui accompagne les particuliers dans leurs investissements immobiliers locatifs. J'ai plein de questions à vous poser. On entend souvent que l'immobilier permet de créer plus de valeur que d'autres placements. Idée reçue ou vérité vérifiée?
Alors, moi, je vous dirais plutôt vérité vérifiée. Effectivement, la mécanique n'est pas la même. Dans le financier, vous allez travailler, vous allez chercher du rendement sur votre épargne. L'intérêt de l'immobilier, c'est que vous allez pouvoir utiliser le levier du crédit qui va pouvoir démultiplier la taille de votre projet et donc d'avoir un niveau de rentabilité qui est plus important car les montants investis seront plus importants. Je rajouterais à ça que dans le cadre précis de l'investissement locatif, vous avez encore une mécanique qui est plus forte car elle permet d'utiliser le loyer qui est payé par le locataire pour rembourser les mensualités et donc l'endettement. Et ça, c'est une mécanique d'enrichissement qui est très forte et le temps devient un allié. Enfin, je vous dirais que le dernier point, et pas des moindres, dans l'immobilier, c'est que vous pouvez aller créer de la valeur immédiate sur ce bien.
Et alors, si je résume, aujourd'hui, les principaux leviers de création de valeur dans l'immobilier, selon vous, c'est de lever de la dette, du crédit, percevoir des loyers et le réaménagement du bien.
Tout à fait.
D'accord. Vous parlez de transformation de bien. Quel type de projet offre le plus de potentiel aujourd'hui, selon vous ?
Les projets que j'ai suivis, là où il y avait le plus de création de valeur, c'est clairement dans la transformation du bien en lui-même, en appui de travaux. Et aujourd'hui, le levier autour de l'amélioration énergétique devient majeur. Et ce qui est intéressant dans cette approche, c'est que, prenons par exemple l'achat d'une passoire énergétique avec un DPE qui est dégradé, vous allez avoir une décote de marché quand vous allez l'acheter, vous pouvez cumuler l'ensemble de ces leviers en faisant des travaux, en faisant une amélioration énergétique. C'est souvent cette combinaison qui crée la performance de l'investissement.
Alors, on va y revenir au DPE, mais dans le domaine de la transformation, on parle aussi des espaces perdus comme les garages, les combles et les sous-sols. C'est une vraie bonne idée ?
Oui. Alors très clairement, hein, c'est toujours la mécanique d'aller créer de la surface habitable alors que elle n'existait pas. C'est une partie qui est d'ailleurs non valorisée ou très peu valorisée à l'achat. Donc dans la mécanique, c'est quelque chose qui est très intéressant. Par contre, il peut y avoir des contraintes. Vous avez notamment des contraintes techniques ou autour de l'urbanisme. Je vous prends un exemple très concret. Vous prenez par exemple une modification, un changement de destination à réaliser sur un garage qui n'a pas été valorisé. Souvent, les garages, vous pouvez avoir des sujets de hauteur sous plafond, de luminosité. Donc, faut pouvoir aller redistribuer et recréer cette zone, cette capacité habitable, en fait, dans ce bien. Dans le cadre, par exemple, aussi d'un changement de destination, l'urbanisme peut imposer, par exemple, des créations de zones de parking. Donc là, encore une fois, il faut que la parcelle le permette en termes d'accès ou en termes de place. Et enfin, je vous dirais surtout que c'est valable à partir du moment où il y a une bonne maîtrise du coût des travaux. Parce que si vous avez un coût de travaux qui est trop important et que vous venez annihiler la valeur qui est créée, en fait, ça n'a plus de sens. Donc c'est du cas par cas.
D'accord. Et puis, quand on crée de nouvelles surfaces habitables, hein, valorisation de la valeur locative, donc valorisation de la taxe foncière aussi, hein, au passage.
Forcément.
Alors, vous en parliez, vous y avez fait allusion il y a quelques secondes, des passoires énergétiques. Est-ce qu'on peut aujourd'hui créer de la valeur avec ce type de bien ayant un très mauvais DPE malgré le coût des travaux? Alors, ça, c'est une vraie question,
ouais,
2026.
C'est une vraie question qu'on me pose régulièrement et on me demande d'intervenir sur ces sujets-là régulièrement. Alors, la réponse est oui. Y a toujours un mais, hein, je vais vous l'expliquer après, mais l'enjeu de ces travaux, en réalité, c'est la maîtrise de l'impact de ces travaux sur la performance énergétique qui va être créée derrière, donc la future lettre. Aujourd'hui, la difficulté, elle est là. C'est quels sont les travaux réalisés dans les meilleures conditions pour obtenir la lettre qu'on choisit. Souvent, on ne maîtrise pas ce point-là et on arrive par peur, en fait, de la lettre DPE qui va empêcher potentiellement de louer dans quelques temps, qui va dévaloriser le bien, à surinvestir. Et ça, c'est un sujet de maîtrise qui est complexe. Pour la petite anecdote, dans les différents projets, j'avais une phase de flou, hein, comme beaucoup de personnes dessus. J'ai fini en fait par passer mon diplôme de diagnostiqueur immobilier pour bien maîtriser les contours du DPE, voir comment est-ce qu'il était construit, afin d'avoir cette capacité en fait de projeter le DPE en amont même de l'achat du bien immobilier. Comme ça, je maîtrise, je sais très bien à quelle lettre est-ce qu'on va terminer et quel montant de travaux est-ce qu'il faut affecter à ce bien. Faut savoir que pour un investisseur, le bon rapport, c'est pas forcément la meilleure lettre, hein. C'est le bon rapport équilibre coût et performance, vous voyez. Donc oui, c'est une bonne approche d'aller reprendre des passoires énergétiques, mais à partir du moment où on maîtrise ce point-là.
Et si je résume aussi, un espèce d'équilibre, bien poser le curseur sur le montant des travaux à réaliser.
Bien sûr.
Une fois le bien transformé, en quoi la stratégie locative participe aussi à la création de valeur ?
Alors la stratégie locative, elle est bien souvent sous-estimée, elle est même parfois mise à la fin du projet d'investissement locatif. Pourtant, c'est un impact direct, hein. Vous prenez le même bien, mais avec des stratégies locatives qui sont différentes. Vous n'avez pas du tout les mêmes types de revenus. Vous prenez, et même de fiscalité d'ailleurs. Vous prenez une location classique en nu. Vous la comparez avec une construction, une création d'une colocation, par exemple. Allez, les revenus sont sans commune mesure. Et c'est là où c'est intéressant, hein. Je reviens un peu sur votre première question, mais plus vous avez de revenus, plus vous avez cette capacité d'endettement, plus vous avez ce levier bancaire, plus le projet peut prendre de l'ampleur. Il y a cet effet boule de neige, vous voyez. Et ça, cette stratégie, elle va permettre de multiplier les opérations et clairement de développer votre patrimoine plus vite.
D'accord. Est-ce que cette logique de création de valeur ouvre des opportunités dans certains territoires aujourd'hui ? Nos auditeurs sont partout en région parisienne, en région, sur tous les territoires.
Alors oui, clairement, c'est d'autant plus vrai sur les grandes agglomérations où les marchés sont bien souvent saturés, des prix qui sont très élevés, qui peuvent être dissuasifs pour faire de l'investissement locatif, et surtout, je reviens à ce que je disais avant, où les transformations sont extrêmement limitées. Les cas là, que je prenais tout à l'heure, de la transformation d'un garage, d'une maison, très clairement, vous n'allez pas le retrouver dans le centre de Paris. Ça n'existe pas, ou ça n'existe plus, tout au moins. Donc, aller changer son prisme et aller sur des villes avec une meilleure dynamique et une meilleure entrée et des meilleurs rendements, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Donc oui, c'est quelque chose qui est intéressant. Encore faut-il pouvoir le faire et être accompagné pour pouvoir faire ce type d'investissement, parce que il y a forcément des freins liés à cette distance.
Une région, une ou des régions coup de cœur, vous pensez qu'il y a un potentiel aujourd'hui ?
Oui, bah, alors moi j'interviens essentiellement sur la ville de Saint-Nazaire, qui est une ville qui a énormément de potentiel. C'est une ville de bord de mer qui est en fort développement. Et alors ce qui est assez intéressant sur cette ville, c'est que c'est une ville qui a été détruite par la Seconde Guerre mondiale, donc a été reconstruite. On retrouve donc des constructions des années 50-70. Et ça, on est typiquement sur le type de bien à création de valeur. C'est des biens qui sont souvent mal isolés. Donc on revient, ça va être souvent des passoires énergétiques. Donc là, vous avez cette création de valeur. C'est des biens qui comprennent souvent des espaces perdus. Donc on revient à cette transformation, de cette création de mètres carrés habitable, et c'est des prix, vous êtes sur des prix qui sont accessibles en fait, hein. Donc c'est très intéressant. C'est clairement un de mes terrains de jeu que j'aime beaucoup, où il y a des belles choses à créer.
Donc certaines villes offrent plus d'opportunités. Mais un investisseur qui n'est pas sur place, comment peut-il concrètement réaliser ce type de projet géré au quotidien ?
Alors, je vais prendre la fin de votre question déjà. La gestion au quotidien, à mon sens, c'est un faux sujet. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'outils qui permettent d'aller faire gérer votre bien complètement. Hein. Vous avez de la gestion locative, vous avez des assurances, des garanties loyers à payer. Bon, la liste est longue, là, mais ça permet d'avoir une autonomie en fait dans la gestion de votre bien. C'est des solutions qui sont pas récentes, hein, qui ont fait leurs preuves. C'est des bonnes solutions. Souvent, elles sont écartées parce que ça représente un coût, hein, tout simplement. Hein.
Mais une tranquillité aussi.
Et ça amène, par contre, une tranquillité, moins de charge mentale pour l'investisseur. Alors, ce coût, qui peut être dissuasif, c'est la même approche. Si vous avez une bonne création de valeur en amont de votre investissement, avec la bonne stratégie locative, en fait, ce coût, il est complètement absorbé et ça devient intégré à l'investissement. Donc, cette gestion à distance sur un projet qui est bien construit ne pose pas de problème. Et au contraire, pas de charge mentale, comme vous l'avez dit. Donc, c'est plutôt intéressant pour l'investisseur. En revanche, je vais revenir sur la première partie de votre question, c'est la mise en place. La mise en place de l'investissement, concrètement, c'est compliqué. Je vous reprends cet exemple de votre Parisien qui va investir à Saint-Nazaire. Il a la distance, il va pas faire des allers-retours toutes les semaines. Surtout qu'on parle pas juste d'acheter un bien immobilier. En réalité, hein, sur ce type d'investissement, on parle de maîtriser un marché, on parle d'aller chercher des opportunités, de faire cette notion de création de valeur, hein, les démarches d'urbanisme, trouver des artisans, suivre le chantier, mettre en location. Bon, voilà, la liste est longue. Hein, je vais pas tout vous détailler, mais vous avez l'idée. Sans relais, très clairement, ce point-là, il est extrêmement compliqué. Donc oui, je dirais à vos auditeurs que c'est une très bonne idée d'investir à distance et c'est là où vous allez avoir les meilleurs rendements et la meilleure création de valeur possible. Mais faites-vous accompagner sur ce sujet-là.
Valperia, par exemple. Olivier de Sauveboeuf, merci.
Merci à vous.
Chers auditeurs et chers investisseurs, je vous remercie de votre fidélité et j'espère vous avoir éclairé. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos antennes, en podcast, ainsi que sur les réseaux sociaux. À bientôt et prenez soin de vous.
Patrimoine et finances, une émission animée par Frédéric Primo, banquier du patrimoine et de l'entreprise, chef de marché profession libérale pour le groupe Société Générale.